Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne sais pas si c'est une question qui vous arrive de vous poser parfois. Pourquoi ça n'a pas marché? J'étais touché par le moment de louange dans lequel nous a conduit Sandra. Et vraiment, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. Tous les dimanches, nous fêtons Pâques. Tous les dimanches, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur. Tous les dimanches, c'est une occasion de nous réjouir de cette victoire. Mais est-ce que c'est ce que vous vivez jour après jour dans vos vies? Moi, ce n'est pas mon cas. Je me rends compte qu'il y a bien des galères qui me tombent dessus, des coups d'arrêt. Et parfois, je trouve que cette vie est en décalage avec ce qu'on peut chanter et ce qu'on peut chanter avec conviction. Je crois tout ce qu'on a chanté ce matin. C'est tiré de la Bible, qui est la base de ma foi, qui est la base de notre foi. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si vous êtes un habitué de cette église, vous savez que nous avons un projet concret et ambitieux qui est celui de déménager dans des locaux bien plus grands que ceux-ci. Nous avons acheté ces locaux et nous sommes en train de les aménager. Et récemment, nous vous avons informé de ce que le projet était à l'arrêt, ce qui connaissait un temps d'arrêt, parce que les conflits dans le comité de pilotage allaient contre la construction de l'église. Voilà un coup d'arrêt difficile à comprendre, difficile à admettre. J'aimerais vous parler ce matin de la vraie raison qui nous arrête. Dans notre projet, comme dans nos vies. Et cette raison, on la trouve au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Vous pouvez écouter la lecture ou chercher dans vos Bibles si vous le souhaitez. Éphésiens, chapitre 6. Et je lis à partir du verset 10. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Ceignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse. Ce matin, j'aimerais surtout m'arrêter sur un verset au milieu de ce que nous avons lu, le verset 12. Je le relis. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que parfois ça ne marche pas? Ce que nous dit Paul, c'est que nous sommes en lutte. Nous sommes pris dans un combat et ce combat n'est pas contre le sang et la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas contre les hommes. Ce ne sont pas des hommes qui s'opposent à nous, d'autant moins dans l'Église où ceux qui sont là rassemblés reconnaissent Jésus pour Seigneur. Ils sont des frères, pas des ennemis. Ce ne sont pas non plus contre des difficultés matérielles, mais contre des puissances spirituelles. Voilà contre quoi nous luttons, contre des puissances spirituelles. Et nous devons en avoir conscience. Nous devons prendre conscience de la dimension spirituelle de nos vies. Et si je reviens à notre projet d'Église, nous devons prendre conscience de la dimension spirituelle de ce projet. Nous avons décidé d'être une Église qui se met en marche. Nous étions une Église avec des activités et quelques problèmes à résoudre. Nous efforcions de suivre le Seigneur comme ça au jour le jour, mais nous voulons désormais être une Église avec des projets de croissance, de double croissance, de croissance spirituelle pour chacun d'entre nous, toujours plus soumis à Dieu, à son service, plus proche de lui. Et également des projets de croissance numérique, de nouveaux disciples qui s'attachent à la communauté. Et notre projet de bâtiment rentre dans ce projet global. Nous ne déménageons pas pour notre confort, nous ne déménageons pas pour avoir plus de place, un bâtiment plus beau pour nous, pour être plus à l'aise. Nous voulons déménager dans le cadre de notre projet d'Église pour accueillir plus de monde, pour accueillir dans de meilleures conditions. Nous voulons un outil pour cette croissance. Et le diable et ses sbires n'aiment pas cela et ils s'y opposent. Et si vous vous souvenez de notre projet, nous avons vu que c'est là que ça se joue. Non pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Nous l'avons vu quand nous avons été bloqués. Quand nous ne pouvions pas signer pour notre bâtiment, parce que le notaire ne nous répondait pas. Quand la commission de sécurité qui allait délivrer le permis de construire voulait nous imposer un délai supplémentaire de plusieurs mois. Quand notre prêt a été refusé, sans raison, et que nous avons dû trouver une autre banque. Chaque fois, c'est quand nous nous sommes réunis en Église pour prier que les choses se sont débloquées. Ce n'est pas par notre compétence, ce n'est pas par notre compatibilité, ce n'était pas par notre imagination que nous avons réussi à débloquer les choses. Non, c'est par l'action spirituelle, en nous tournant vers Dieu, en le priant. C'est là que ça se joue, dans le domaine spirituel, et c'est là que se trouve l'opposition. Qui est cette opposition? Qui sont-ils, ces principats, ces autorités, ces pouvoirs du monde des ténèbres, ces puissances mauvaises spirituelles? Certains théologiens et commentateurs de la Bible voient des forces un peu abstraites qui influencent le monde, mais je crois que la Bible indique que ce sont des êtres réels, des créatures. Et quand on voit le vocabulaire qui est utilisé dans ce passage, une certaine impression de puissance qui se dégage de ce vocabulaire-là. Ce n'est pas des petits soucis de rien du tout, ce n'est pas les moustiques qu'on peut écarter d'une main sont des puissances. Oui, ce sont des êtres de puissance qui ont un réel pouvoir de nuisance sur nous, qui ont une autorité sur certaines choses, mais également, la Bible nous montre qu'ils ne sont pas tout puissants. Ce ne sont pas des dieux face à un dieu bon, un dieu mauvais. Non, ce n'est pas ce que décrit la Bible. Il n'y a qu'un seul dieu. Ce sont des créatures qui, comme tout l'univers créé, sont soumises à Dieu. Et s'ils ont un pouvoir de nuisance, ils agissent toujours sous le contrôle, sous la limite de Dieu. Les lecteurs de la Bible se souviendront de l'histoire de Job. On voit Job oppressé par Dieu. Mais toujours, oppressé pardon, par le diable, mais toujours sous le contrôle et la connaissance de Dieu. Il pose des limites à l'action du malin. Non seulement ils sont soumis, mais en plus, leur temps est compté. Leur temps est compté. La Bible annonce cette défaite qui est déjà actée. Oui. Maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. C'est ce que dit Jésus, ses disciples, dans Jean 12. Voilà donc ce que nous vivons, un combat face à des forces qui veulent nous tirer vers le bas. Comment agissent-elles ? Alain Nisus, dans son livre qu'il consacre au mal, au diable, voit trois formes d'action des forces du mal. La tentation, l'accusation et l'oppression. La tentation, d'abord. Le diable et ses forces influencent les hommes pour leur faire commettre toutes sortes d'actions qui les éloignent de Dieu. Et pour faire ça, pour user de cette influence, ils trouvent dans l'homme un appui, c'est le péché. Le péché présent dans l'homme, et le diable va essayer de s'appuyer dessus, sur les faiblesses que nous pouvons avoir pour les exploiter. Il est rusé, il est habile, la Bible l'appelle le malin, il est trompeur, c'est le père du mensonge, il aveugle les hommes, il attire les désirs de possession, de pouvoir, de savoir pour amener les hommes à s'y soumettre sans discernement. Il agit par suggestion sur l'esprit humain, cherchant à nous convaincre de vivre d'une manière qui déplaît à Dieu. Il sème le doute, comme il l'a fait lors de la chute, en disant « Dieu a-t-il réellement dit ça ?» Il déforme les perspectives, il distille le doute, il fait des suggestions. Il n'agit pas directement sur l'esprit humain, mais au travers de l'imagination, des désirs, des appétits, des émotions. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est important, il faut bien prendre conscience qu'il s'appuie sur nous, sur ce qu'il y a en nous, sur le péché, sur nos mauvaises tendances. Il s'appuie là-dessus pour faire basculer la balance de ce côté. Voici le travail du tentateur. En plus de ça, il accuse. Par son action, il sape la relation du croyant avec Dieu. Après nous avoir fait chuter par la tentation, il nous accuse devant Dieu, faisant remarquer qu'on n'a pas respecté les commandements. Il nous fait croire alors que nous sommes indignes, que nous avons perdu notre relation avec Dieu, que nous ne pouvons plus nous approcher de lui, que nous ne sommes pas de bons chrétiens. Mais face à ça, nous pouvons nous souvenir que Jésus a prié le prix. Nous pouvons nous souvenir qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Oui, nous sommes coupables. Nous avons une dette envers Dieu, mais cette dette a été réglée. Et nous vivons sous cette promesse de ce que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Cette promesse est certaine. Et par le sacrifice de Jésus, elle fait taire. Troisième forme d'action, l'oppression. Il arrive que le diable fasse subir des attaques directes, des maladies, des accidents, des incidents fâcheux. Tous ces éléments, nous les vivons dans nos vies, et ce n'est pas nécessairement l'œuvre du malin. Dans notre monde, touché par le péché, abîmé, il arrive que nous soyons malades, il arrive que nous ayons. Mais comme on le voit dans la Bible et dans Job que je citais en particulier, le diable peut aussi déclencher ses actions et s'en servir. Ça fait partie de son travail. Tentation, accusation, oppression. Voilà ce dont nous sommes la cible dans ce combat spirituel. Mais je crois que le moyen d'action auquel nous devrions être particulièrement attentifs, c'est la tentation. Parce qu'elle n'est pas toujours facile à déceler. Et j'aimerais là citer un livre remarquable qui m'a énormément apporté quand j'étais jeune et qui m'apporte encore aujourd'hui. C'est le livre de l'auteur C.S. Lewis, « Tactique du diable ». Dans ce livre, l'auteur se place dans la peau d'un tentateur, expérimenté qui va coacher un tentateur débutant. Il va lui donner des conseils pour faire chuter un jeune chrétien dont il a la charge. C'est assez particulier à lire parce que on est placé de l'autre côté. Et des personnes dont le but est de faire tomber et où notre Dieu est appelé l'ennemi. J'aimerais en lire un extrait, pour vous donner envie de le lire, mais aussi pour voir un peu, par la clairvoyance de l'auteur, les ruses dont est capable. Alors que le jeune qui doit être tenté et détourné est devenu chrétien et qui commence à aller à l'église. Voici ce qu'écrit le tentateur expérimenté. « Pour l'instant, l'église elle-même est l'un de nos alliés les plus sûrs. Quand il y entre, il voit l'épicier du coin se précipiter au-devant de lui et, avec ses manières onctueuses, lui remettre un petit livre luisant d'usure et contenant une liturgie que ni l'un ni l'autre ne comprend, ainsi qu'un autre petit recueil défraîchi de textes corrompus d'une poésie religieuse, souvent du plus mauvais goût, imprimé en très petits caractères. Quand il prend place sur son banc et jette un coup d'œil sur son entourage, il aperçoit justement ceux de ses voisins qu'il a pris soin d'éviter jusqu'alors. Si ton protégé apprend que la femme au chapeau bizarre est une fanatique de bridge et l'homme aux chaussures qui craquent un avare et un extroqueur, ta tâche se trouvera considérablement simplifiée. Tout ce qu'il te restera à faire, c'est d'empêcher qu'il ne fasse le raisonnement suivant. Puisque moi, malgré ce que je suis, je peux me considérer comme un chrétien, je ne vois pas pourquoi les défauts des autres gens de l'Église prouverait que leur piété est hypocrite et purement formelle. te demande peut-être s'il est possible d'empêcher l'esprit humain d'élaborer une idée aussi logique. Oui, oui, Wormwood, certainement, manœuvre bien. Et une telle pensée ne l'effleurera même pas. Il n'a pas été assez dans le camp de l'ennemi pour avoir pu acquérir la véritable humilité. Ce qu'il dit, même à genoux de son état de péché, il le répète, comme un perroquet. Dans son fort intérieur, il a la conviction qu'à la suite de sa conversion, un importe-au-sol de créditeur figure à son compte dans le grand livre de l'ennemi. Et il pense faire preuve de beaucoup d'humilité en condescendant à s'asseoir sur les mêmes bancs d'église que ces gens ordinaires et prétentieux. Maintiens-le dans cet état d'esprit aussi longtemps que tu le pourras. Voilà ce récit de fiction, mais ô combien réaliste, nous montre comment œuvrent les forces du mal pour essayer de nous faire douter des promesses de Dieu, de nous faire croire que nous sommes forts alors que nous ne le sommes pas, et de nous détourner du chemin que nous avons voulu suivre. Il nous faut apprendre à déceler les tactiques du diable. Et dans les tensions que nous avons vécues dans notre projet, le diable a œuvré. Il est normal d'avoir des conflits. Il est normal que deux personnes aient des idées différentes. Dieu a créé la diversité. Et il est écrit dans la parole, le fer aiguise le fer. C'est confronté à la différence que nous devenons plus affûtés. Mais s'ils sont normaux, les conflits sont aussi un terrain de jeu propice à l'ennemi. L'ennemi qui va tenter de nous convaincre des mauvaises intentions de notre interlocuteur. Qui va entretenir notre orgueil pour nous faire nous accrocher à notre façon de faire. Qui est la meilleure, bien entendu. Qui va s'appuyer sur la fausse bonne idée de vouloir rechercher la paix pour nous retenir de dire quand quelque chose nous dérange, alors que c'est quelque chose qui aurait dû être révélé. Qui va nous pousser dans un manque de douceur pour nous rendre blessants, avec bien sûr la bonne intention de faire ça pour être honnête. Il va endormir notre méfiance en nous convainquant que tout va bien, même si la tension monte, parce que nous sommes chrétiens, les choses vont se régler toutes seules. Il endort notre lucidité pour nous faire croire que je peux prendre sur moi, alors qu'au fond de moi, la colère bout et qu'elle sortira bien plus forte si je l'avais avouée dès le début. Il va s'appuyer sur notre fierté pour nous détourner de la demande de pardon que nous devrions faire par crainte de nous mettre dans une position de faiblesse. Oui, les conflits sont un terrain de jeu propice à l'ennemi. Et je crois que ce que nous avons vécu dans le comité de pilotage de notre projet lui a laissé une part. Et je veux vous en demander pardon. Pardon d'en être arrivé là, de nous mettre dans une situation qui a des conséquences sur l'Église. Mais en même temps, j'aimerais ce matin que chacun saisisse pour lui-même la mise en garde. Tout ceci, tout ce qui s'est passé à cette échelle, on le retrouve chacun dans nos rapports humains, dans nos familles, dans nos mariages, au travail, dans nos équipes, dans notre voisinage. L'adversaire est particulièrement fort pour dresser les hommes les uns contre les autres. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le diviseur. Il nous maintient dans l'incompréhension mutuelle. Si on regarde ce qui se passe au niveau, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde, il est très fort pour entretenir l'homme dans cette incompréhension. Et alors que nous nous mettons en route spirituellement pour le Seigneur, pour faire avancer son royaume, il est particulièrement virulent. Comment lui résister alors? Comment lui résister? Nous avons tous un rôle à jouer. Il ne faudrait pas retenir de ce que nous sommes pris dans un combat qui nous dépasse et où nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas parce que nous avons un ennemi et même une armée que nous sommes impuissants. À nous de résister, à nous d'être perspicaces. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas là d'exorcisme, nous ne devons pas chasser des démons, des esprits qui nous embêtent, non. La tentation se passe en nous, c'est en nous que ça se passe, c'est contre nos mauvaises tendances que nous devons lutter. Et le texte que nous avons lu donne une piste. Dieu nous donne des armes pour résister. Dieu nous équipe. Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante, nous avons lu. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu est là, il nous équipe, c'est là la solution. Face à la tentation, face à toutes sortes d'attaques, la solution n'est pas dans l'agitation et dans la recherche de solutions par nous-mêmes, la solution est auprès de Dieu. Il est plus fort que l'adversaire et son armée. La solution est en lui. Nous pourrions jeter un coup d'œil à la liste des armes qui se trouvent dans les versets suivants. L'heure tourne et pour être honnête, ce pourrait être l'objet d'une prédication entière, tellement c'est riche. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures des bonnes dispositions, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Je vous invite à méditer ces éléments. Pourquoi pas en parler entre vous, dans vos groupes de maison, dans vos duos de prière pour ceux qui en ont. Réfléchissez, comment utiliser ces armes pour repousser l'ennemi. La semaine prochaine, nous réfléchirons à comment bien avancer. Après la question de pourquoi ça n'a pas marché, il est temps de se remettre en mouvement et de nous demander comment nous mettre en mouvement. Et pour l'heure, j'aimerais nous laisser avec cette pensée, cette interpellation. Où est-ce que nous en sommes dans le combat spirituel? Où est-ce que nous en sommes avec notre résistance? Est-ce que nous arrivons à déceler les attaques de l'ennemi? Nous sommes perspicaces. Est-ce qu'il n'y a pas là un lieu pour nous de progression, de nous entraîner à cela, à être plus perspicaces? Le diable aimerait passer inaperçu. Il est particulièrement efficace quand il n'est pas remarqué. Et quand nous ne le remarquons pas, nous essayons de régler des problèmes qui ne sont pas les bons. Derrière nos difficultés, qu'elles soient externes ou internes, il y a l'ennemi habile qui tente de nous freiner. Et c'est particulièrement vrai pour notre projet qui a une forte implication spirituelle. Nous voulons faire plus de disciples et des disciples toujours plus affermis. Soyons vigilants, soyons clairvoyants pour mettre à jour l'action de l'adversaire. Et surtout, Tournons-nous vers Dieu. Nous voulons remporter la victoire. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes un peu dépassés parfois par ces enjeux spirituels. Pourtant, nous devons nous rendre à l'évidence. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, nous sommes bloqués. J'aimerais te prier que tu ouvres nos yeux pour que nous soyons capables de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, la lutte dont nous sommes l'objet. Ouvre nos yeux et aide-nous à nous tourner vers toi pour chercher de l'aide. Aide-nous aussi avec force à rejeter les solutions mauvaises que le diable met dans nos cœurs par la tentation. Pour revenir à ce que tu nous commandes dans ton évangile pour nos relations. Nous te prions au nom de Jésus.